À l'occasion du Printemps des Poètes du 5 au 18 mars prochain, Wagon Livre s'associe à cette grande manifestation nationale et internationale. Le thème de cette 14e édition cette année est le thème de l'enfance. Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous donc du magazine littéraire de Radion. Et à notre manière, nous marquons cette longue semaine du Printemps des Poètes en accueillant devant nos micros deux invités. Jacques Morin, alias Jacques Mo, bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Et Alain Quévez, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors je vous présente encore, si besoin, à nos auditrices et auditeurs. Alors Jacques Mo a déjà eu l'occasion de venir s'exprimer devant le micro de Wagon Livre. C'était au mois de mars l'année dernière pour un livre, Jacques, que tu avais fait paraître aux éditions Rhubarbe, maison d'édition qu'Alain Quévez, ici présent, a créé et dirige toujours depuis 2004, décembre 2004. Donc je rappelle, la poésie de A à Z, selon Jacques Mo, donc par notre invité Jacques Morin, on aura peut-être l'occasion d'en retoucher mot. Alors Jacques, je te présente d'abord, tu es poète, il y a tout de même 20 recueils à ton actif, tu es revuiste, très important. Tu as été enseignant de lettres, actuellement tu goûtes à une retraite bien méritée, créateur et directeur de publication de la revue de poésie Décharge, plus de 150 numéros à ce jour depuis sa création en 1981. Et donc, je rappelle, tu as fait paraître, à la demande d'Alain Quévez, des éditions Rhubarbe, la poésie de A à Z selon Jacques Mo. Tu es aussi le président donc, du comité directeur du prix Marie-Noël de la Bourgogne-Auxerroise, dont le prix sera remis le 24 mars prochain au domicile de Marie-Noël.
Tout à fait.
On en reparlera d'ici quelques minutes. Passons au tour d'Alain Quévez. Alain, professeur documentaliste au lycée hôtelier Vauban.
Hôtelier, entre autres.
Hôtelier.
Entre autres.
Entre autres. Nouvelliste, tu as reçu le prestigieux prix Prométhée de la Nouvelle en 1997 pour Le geste manqué de l'amant, qui est toujours disponible aux éditions du Rocher. Tu es le créateur, donc, en 2004, de la maison d'édition Rhubarbe, installée à Auxerre. Tu es critique et collaborateur régulier de la revue de poésie Décharge. Alors, il faut dire, Alain, que tu as appris à écrire avec un écrivain au cours préparatoire.
Ah, tout à fait, oui, c'est la petite histoire, mais mon instituteur du cours préparatoire était un jeune homme qui depuis a pris quelques années aussi et qui s'appelle Roger Michel-Berger et qui a publié une quarantaine de, ou une cinquantaine d'ouvrages depuis, et j'ai trouvé ça assez amusant quand mon premier livre est paru de lui envoyer en disant voilà, c'est vous qui m'avez appris à écrire, bon, j'espère qu'il ne le regrette pas trop.
Je me dois de préciser, Jacques Mo et Alain, que vous avez créé l'association La Soie des Vers en 2002 à Auxerre, et qui est une association essentiellement de lecture de textes qui ne sont pas forcément poétiques. Pas que poétiques,
effectivement. C'est une association qui avait pour objet officiel, on va dire, de promouvoir la poésie et la nouvelle contemporaine à Auxerre et dans Lyon, et qui a eu une activité assez soutenue jusqu'en 2006-2007 à peu près, avec pas mal d'interventions dans des bibliothèques, dans des cafés, dans des lieux plus surprenants, des halls de gare, la rue, et des musées, avec quand même une proportion de poésie plus importante qu'elle ne l'est dans l'édition contemporaine. Voilà.
Donc nous avons ce soir le bonheur d'avoir des passeurs de littérature devant le micro. Alors, ma première question est une provocation. Qui lit encore aujourd'hui de la poésie?
Voilà, c'est une question un peu piège, on va dire. Eh bien, un certain nombre de gens qui sont intéressés par la poésie, qui souhaitent la découvrir ainsi. Enfin, je te réponds un peu d'une façon un peu plate. Je pense qu'il y a encore pas mal de lecteurs. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un effritement qui se fait de la lecture en général, mais pas plus de la poésie que d'autres choses, à mon avis. Donc on retrouve quand même un certain nombre de gens qui sont intéressés par la poésie, comme ça a dû être toujours être le cas auparavant. Je ne pense pas qu'il y ait un effritement supérieur en poésie qu'ailleurs.
Est-ce que la poésie n'est pas perçue justement comme une lecture pour une élite ? Alain,
Non, pour une élite, certainement pas. Alors, il y a évidemment des amateurs passionnés de poésie qui sont peu nombreux. Et donc, peu nombreux pourrait signifier élite, mais en tout cas pas une élite ni culturelle, ni professionnelle. Je veux dire, ce ne sont pas, par exemple, pour ne citer que, les professeurs de français ou les professeurs d'université qui seraient lecteurs de poésie. On peut avoir des lecteurs de poésie passionnés qui sont plombiers chauffagistes, même si, au final, c'est vrai qu'ils sont peut-être assez peu nombreux, mais je crois que la poésie a toujours été une lecture numériquement minoritaire.
Jacques.
Alors j'ajoute simplement comme ça que c'est vrai que d'un côté on va trouver des gens qui n'ont rien à voir avec un métier qu'on pourrait considérer comme intellectuel et qui sont passionnés par la poésie, et que d'autre part on va aussi dire comme ça que beaucoup de professeurs de français qui enseignent aujourd'hui sont peu intéressés, peu ouverts à la poésie contemporaine.
Alors vous deux qui avez côtoyé ou qui côtoyez encore les jeunes gens au lycée, quel regard la jeunesse a sur la poésie ?
Alors,
est-ce qu'elle est perçue comme difficile, comme marginal dans la production littéraire, le roman drainant quand même le lectorat le plus important. Déjà, Alain, tu défends les lecteurs de nouvelles, tu dis que la nouvelle n'est pas toujours suffisamment bien valorisée auprès même des libraires. Mmh. Alors, la poésie, n'en parlons pas.
Oui, mais alors, la poésie a trouvé, depuis toujours, en fait, d'autres voies de diffusion que l'édition prestigieuse des grands éditeurs.
À quoi penses-tu alors ?
Je pense... déjà, la chanson.
La poésie des rappeurs ? Alors, oui, la chanson.
Mais
oui.
Pas forcément des rappeurs, mais en tout cas la poésie orale. Ça a pu être les troubadours, ça a pu être des cabarets. On va écouter quelques chansons tout à l'heure. La poésie s'est diffusée par l'oral, par l'oralité, par la poésie dite. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est entre autres la poésie des rappeurs, le slam, mais ça peut aussi être Internet, qui est une autre diffusion que l'édition, et c'est une autre lecture aussi. Et moi, en tant que documentaliste, ou comme praticien, on va dire enseignant, ça va compléter en fait ma réponse de tout à l'heure. Il y a relativement peu de lecteurs passionné et exclusif de poésie, mais il y a énormément de lecteurs occasionnels. Et parmi mes élèves, les adolescents du lycée Vauban, il y en a beaucoup, beaucoup, qui lisent de temps en temps de la poésie. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'effectivement, on peut très bien vivre en ne lisant pas tout le temps que de la poésie, en en lisant un petit peu. Après, on pioche au hasard, on est déçu, on n'est pas déçu. Et ce qui est particulier avec la poésie aussi, je crois, c'est un lieu commun, c'est de dire qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Néanmoins, les jeunes gens ou les gens un peu moins jeunes qui écrivent de la poésie, de temps en temps, vont lire celle des voisins. Donc ça fait finalement un public tout à fait honorable.
Alors, je vais demander à Jacques Mau aussi de s'exprimer sur ce manque de visibilité de la poésie. Lorsque tu crées la revue Des Charges en 1981, quel est l'objectif premier de la création d'une revue de poésie ? C'est surtout parce que tu te poses comme un découvreur ou tu as envie de valoriser justement ces poètes qui ne trouvent pas forcément les éditeurs ? Parce que, pareil, quelles sont les grandes maisons d'édition de poésie ?
Oui, alors, enfin, quand tu parles de 80, c'est qu'il y a une énorme évolution, parce que là, on fait 30 ans d'un seul coup. Donc c'est vrai que c'est certainement, quand j'ai créé Des Charges, c'est plutôt là, dans le même esprit que maintenant, je continue la revue, même si je le fais quand même par fidélité et ténacité. Donc ça a beaucoup changé. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu d'ouverture pour la poésie, et puis très peu de moyens de publier. Donc je pensais que la revue pouvait être justement ce vecteur. Aujourd'hui, et je complète un peu ce qu'a dit Alain, Internet, ça a complètement bouleversé le paysage, on va dire, et que n'importe qui peut ouvrir un blog, n'importe qui peut passer des textes. Et donc, maintenant, Ça a révolutionné complètement, je crois, la poésie. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, tout n'est pas de qualité. Ça, c'est un peu le défaut de la chose. Mais il y a une certaine une prolifération poétique, comme ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu.
Alors, cette prolifération poétique, par exemple, sur Internet ou par le biais des blogs, est-ce qu'elle expliquerait que, justement, la presse, nos quotidiens, s'intéressent quasiment pas à la poésie? On rencontre des essais, on rencontre des romans. Il y a peut-être encore l'Humanité, je crois, qui accorde un peu de place à la poésie dans ses pages, mais dans le Figaro, Le Monde, Libération, il n'y a pas forcément des chroniques de recueils de poèmes.
Mais je crois que c'est tout simplement très difficile de parler de la poésie. Un journaliste, un chroniqueur a plus de facilité à rendre compte d'un roman, indépendamment évidemment des pressions, on va dire, amicales ou pour parler d'une nouveauté qui va sortir. Mais c'est très difficile de parler de la poésie. Même des amateurs de poésie, passer le « j'aime, j'aime pas », ça me touche, ça ne me touche pas, ça me reste extérieur, c'est très difficile. Et même quand on veut servir, quand on croit servir la poésie en parlant, souvent, le discours qu'on porte sur la poésie est assez décevant. Il est en deçà de l'émotion qu'on peut éprouver en la lisant. Donc ça explique aussi. Après, bien sûr, un journaliste est assailli de propositions, de possibilités de rendre compte. Et il va piocher assez naturellement dans les ouvrages qui lui parviennent à la rédaction. Les maisons de poésie, les revues, les éditions de poésie ne sont en général pas si bien portantes financièrement parlant, donc ne font pas beaucoup de services de presse. Voilà, je pense pas qu'il y ait une vraie cabale contre la poésie. Mais ça se trouve comme ça. On ne reçoit pas les livres à la rédaction, donc...
Je pense que ton constat tout à l'heure, Yannick, n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on ne parle plus de poésie dans les grands journaux. Les nouvelles littéraires qui existaient encore, il y a encore peut-être 20 ou 30 ans, ont disparu par manque de lecteurs. Donc ce qui fait qu'il y a très très peu de choses où ça se passe encore aujourd'hui. C'est vrai que, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'Humanité. Bon, c'est vraiment un des derniers îlots où on parle un peu de poésie une fois par semaine. Donc ça a complètement disparu, et là-dessus, bon, je comprends aussi les grands journaux qui ne veulent pas trop essayer de s'empailler, si je puis dire, dans quelque chose qui n'a pas de public apparent. Donc ils préfèrent ne pas en parler du tout plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui ne passera pas ou qui n'aura pas de succès.
C'est un principe du cercle vicieux, on n'en parle pas parce que personne ne la lit parce qu'on n'en parle pas, on ne sait pas où est la poule et où est l'œuf.
Bon. Ce soir, on en parle un petit peu sur Radion avec Jacques Morin et Alain Kévès qui sont nos invités. Alain, on va marquer une première pause. C'est vous deux qui avez un peu choisi les intermèdes musicaux qui vont ponctuer notre entretien. Que nous proposes-tu, Alain? Alain et Jacques Morin.
Eh bien, je vais vous proposer un poème de René Guicadou. Alors, René Guicadou est peut-être un contre-exemple de tout ce qu'on vient de dire. C'est un poète extrêmement lu, extrêmement connu, extrêmement populaire et qui parle à beaucoup de gens. Donc là, c'est une interprétation par Mani Lanuel et ça s'appelle « Femme d'Ouessant ». Donc ça n'est pas sur le thème de l'enfance, mais sur le thème des femmes qui était le thème du Printemps des Poètes dernier ou avant-dernier, je crois.
L'année dernière, c'était un fini paysage,
voilà,
le thème retenu.
Voilà, donc c'était il y a 2 ans.
Couleur femme.
Voilà. Donc Manu Lanuel, Femme d'Ouessant.
Soir de pauvreté, comme il en est encore, dans les rapports de mer et les hôtels meublés. Il arrive qu'on pense à des femmes capables de vous grandir en un instant, de vous lancer. par-dessus le feston doré des balustrades, vers un monde de roc et de vaisseaux hantés, par-dessus le feston doré des balustrades, vers un monde de roc et de vaisseaux hantés. Les filles de la pluie sont douces si je elles, à travers un brouillard infiniment glacé. Leur corps qui se refuse et la noire dentelle qui pendent leurs cheveux comme un oiseau blessé. Nous ne dormirons pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous ne dormirons pas dans les chambres offertes à la complicité nocturne des amants. Nous avons en commun dans les cryptes d'Auverte le hamac déchiré du même bâtiment. Et nous veillons sur nous comme on voit les pleureuses dans le temps d'un amour vêtu de cécité. À genoux dans la gloire obscure des veilleuses, réchauffées de leurs mains le front prédestiné. À genoux dans la gloire obscure des veilleuses, réchauffées de leurs mains le front prédestiné.
Radion. Radion.
Retour à bord de Wagon Livre avec Jacques Morin, directeur de publication de la revue de poésie Décharge, et avec Alain Quévès. Alain aussi, c'est pareil, c'est toujours très difficile de le présenter parce qu'il y a un empilement de casquettes, hein, critique, nouvelliste, éditeur, fonds de pension à Rhubarbe. Peut-être tu aimes bien.
Oui.
C'est, je crois sur le site internet, c'est même les éditions Rhubarbe, d'ailleurs, qu'on peut aller visiter. Alors, on a préalablement ouvert cette émission en revenant plus ou moins sur la visibilité assez faible de la poésie, du genre poétique. Et pourtant, il y a quelques années, le Nobel de littérature a été attribué, ben c'est l'an passé, hein, à Thomas Tranströmer, bon, un vieux monsieur de 80 ans, traduit dans les pays scandinaves, très connu aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro de Décharge, Jacques Mau, on nous a montré que finalement, en France, la caste des journalistes était particulièrement inculte, parce que Thomas Tranströmer, c'est pas facile avec cette allitération en T, le prix Nobel de littérature, poète, est finalement beaucoup plus connu et traduit, même en France, au Castor Astral.
Oui, alors, comme évidemment il a été un petit peu cantonné uniquement au Castor Astral, qui a très bien trouvé ce poète, c'est vrai que la plupart des gens ont commencé un petit peu la plupart des journalistes dont on parlait tout à l'heure, qui sont plutôt, enfin, cette fois, élitaires, pour le coup, ou élitistes, ont été assez déçus que ce soit lui qui ait été choisi, alors qu'il y avait en concurrence, par exemple, Bob Dylan. Et donc, c'est vrai que ça aurait été tout à fait un autre accueil qui aurait été fait.
On avait parlé d'Adonis aussi, qui aurait été un poète tout à fait approprié aussi.
Donc voilà, donc tu disais ça par rapport peut-être au sommaire du dernier numéro, bon, enfin, qui est déjà sorti il y a quelques temps, où donc j'avais un chroniqueur qui s'occupait de la poésie suédoise, qui a donc fait un dossier Thomas Tranströmer dans le numéro 152 de Décharge.
Alors le prochain numéro de Décharge est tout frais sorti des presses. Alors pour découvrir la revue des charges, donc c'est 4 numéros par an. Hein. La revue des charges, c'est à ce jour 10 000 pages, plus de 10 000 pages, 1000 auteurs depuis sa création qui ont trouvé donc place et éclairage dans des charges. D'accord. Et certains même ont fait leur début un petit peu, enfin, bien ont sûr, été un peu propulsés par, bon, par des charges.
En 30 ans, forcément, on accumule un peu le nombre d'auteurs. Ça explique aussi le nombre d'auteurs qui ont été dans des charges et également le nombre de pages qui devient un peu faramineux au fur et à mesure, mais bon. Ça s'accumule, ça s'empile.
Et un Jacques Morin heureux parce que la revue des charges fonctionne désormais sans subvention.
Oui, depuis deux ans, moi maintenant, ça, on essaye de fonctionner tout seul. Alors j'espère que ça va continuer, puisque bon, tout n'est pas simple, hein, entre les frais d'imprimerie, le papier qui augmente, les frais de poste qui deviennent catastrophiques. Donc tout ça fait que c'est pas évident, mais on essaye de tenir avec une revue qui justement a pris de la couleur, parce qu'il y a maintenant 4 pages couleur chaque fois dans chaque numéro, et qui essaye donc de tenir le cap.
Alors, des collaborateurs fidèles, des piliers. Fait. Alors, Alain en est un.
Bien sûr.
Et puis, il y a Claude Verset.
Claude Verset, Louis Dubos, qui était l'ancien éditeur du Des Bleus, de l'Idée Bleue, qui s'est occupé de décharge jusqu'à ce qu'il arrête. Il y a Rüdiger Fischer, qui nous fait des traductions de poètes allemands en français. Il y a Jean-Louis Jacquiroux. Il y a Georges Catalot, qui chaque fois s'occupe d'un éditeur. Donc, ça donne un flash sur un éditeur en particulier. Enfin, un petit éditeur, évidemment. Et puis donc dans ce numéro, il y avait, dans le 152, donc, qui est déjà paru dernièrement, il y avait donc un poète, François de Cornières, qui est un poète très important, qui est un petit peu celui qui était le plus réputé concernant la poésie du quotidien, qui avait arrêté d'écrire pendant, on va dire, un certain temps, parce qu'il était très occupé à Caen, où il s'occupait de théâtre par rapport à la poésie, entre autres, hein, des spectacles, et puis bon, avec d'autres soucis, d'arrêt de son écriture, et puis soudain il s'est mis à écrire à nouveau. Et donc, il a confié à des charges des pages. Donc, c'était des inédits. Tous les lecteurs ont été assez surpris de le retrouver dans ce genre de texte. Enfin, tout à fait à son image, mais qu'il n'avait plus l'habitude de lire de sa part. Donc, je vais peut-être en lire un, qui s'appelle « Nageur du petit matin ».« Nageur du petit matin ». C'était ce que j'aimais, m'arrêter de nager, me retourner doucement et regarder la côte. La plage encore dans l'ombre, les maisons blanches derrière la dune, les pins, le ciel, traînés de nuages roses. Je nageais toujours jusqu'à la bouée jaune. Je m'arrêtais, je me retournais. C'est là que j'ai pensé écrire un poème pour cet instant, quand je me laisse porter à 300 mètres du bord. Nageur du petit matin, pourtant proche, déjà loin, pourtant proche, mais de quoi ?
Tu aimes bien cette poésie proche du quotidien ?
Alors lui, de toute façon, là, on tombe sur un orfèvre, parce que c'est un peu le chef de file de cette école-là. Donc évidemment, là, ça parle d'autant plus. François de Cornières a, disons, inventé, peut-être pas le premier, mais enfin, disons, a mis au point ce style justement de parler de choses tout à fait quotidiennes, dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Et donc ça devient une poésie d'une limpidité, d'une facilité exemplaire, mais il y a toujours une émotion à l'intérieur, qu'on ne perçoit pas nous en tant que peut-être que le non-poète en quelque sorte, mais que lui justement fait ressortir, et c'est là que ça devient magnifique.
Comment s'opèrent les choix des textes poétiques que tu vas publier dans la revue des charges ? Alors Alain les lit à tes côtés, ainsi que tout le comité, comment se...
Alors en ce qui concerne la revue... En général, bon, on va dire que c'est quand même des textes que je reçois pour la revue elle-même et qui sont, qui rentrent ou pas dans un peu ce que je publie depuis 30 ans. Donc là, ça va vite se...
Donc tu publies la poésie hyper contemporaine.
Bah, pas toujours. Hein. Quelquefois, ça peut être des poètes qui sont pas forcément toujours récents. C'est arrivé de publier des auteurs. Alain a fait par exemple un dossier à un moment donné sur... quelqu'un qui faisait une revue il y a quelques années.
Ah, oui. Je sais plus.
Il s'agit de retrouver le nom maintenant.
Voilà. Bon, enfin bon, donc en général, c'est vrai que c'est plutôt de la poésie contemporaine. Mais il m'arrive de republier des textes d'auteurs un peu plus anciens.
Mais est-ce à dire qu'il y a un filtre ? C'est-à-dire que tu ne retiens que les bons textes ?
Ah bah j'essaye quand même en général de retenir tous les bons textes, c'est exact.
Non mais je veux dire Décharge n'est pas le lieu de l'expression, l'espace de liberté ouvert à tout poète qui a envie.
Tu t'imagines bien que la revue déjà fait 148 pages en général et je pourrais en publier trois fois plus. Donc là je suis forcé de faire un tri énorme. En plus, bon, il y a une rubrique qui est quand même ouverte aux jeunes auteurs, qui s'appelle le choix de décharge. Et là, j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Et donc, j'en prends un de temps en temps, selon les auteurs, pour leur donner une chance d'ouverture. Mais c'est quand même pas... sinon, je publierais des bottins complets de... Mais là, on tomberait un peu sur le défaut que je pointais tout à l'heure sur Internet, à savoir un manque d'exigence, de rigueur et de richesse et de qualité.
Il faut dire...
Voilà, Jacques Marais, le nom nous revient... Donc c'est quelqu'un qui a... Tu peux en dire un mot, là.
C'est un petit peu un hommage, parce que c'est un poète colporteur des années 30, 40, 50, je crois, et qui avait des attaches auxerroises, et qui a été un revuiste impénitent, c'est-à-dire ruiné, comme tout le monde, et voilà. Il y a eu un hommage au musée Saint-Germain il y a quelques années. Puisque, oui, voilà, c'est un...
Où la Soie des Verts avait fait une lecture de Jacques Marais.
Voilà.
Il est important, Jacques, de dire à nos auditrices et auditeurs que tu as quand même découvert des poètes qui, par la suite, ont mené un beau parcours éditorial. Je pense, par exemple, à Pierre Autin-Grenier, qui, ensuite, a publié, il a publié des livres chez Folio Gallimard.
Oui. Oui, alors bon.
Là, tu n'es pas peu fier, là.
Oui, enfin bon, maintenant, ça y est, je m'en suis un peu remis. Hein. Mais disons que c'est vrai qu'au départ, bon, Pierre Autin-Grenier, tout de suite, quand on recevait des textes de lui, on disait ça c'est bon, je le publie. On sentait que c'était un bon auteur. On ne pouvait pas se douter qu'il allait. Enfin, éventuellement, on pouvait se douter si on avait une vision de la chose, mais qu'il allait continuer ainsi et proposer des textes de tellement bonne qualité que ça n'a pas fait long feu pour le retrouver chez Gallimard par la suite et donc chez Folio enfin.
Question aussi brutale, est-ce que le vers est mort?
Alors ça c'est une question très vaste. Moi je pense qu'en tournant ça dans tous les sens, je pense que la forme doit être ce qu'on a envie d'en faire. C'est-à-dire que bon, alors je pense malgré tout que, ça c'est un de mes chevaux de bataille, que le vers rimé me semble un peu vieux jeu, hein, ça tient plus debout. Mais bon, mais le vers, moi j'écris en vers, je pense que c'est, de toute façon la forme doit être très libre, ce qui peut permettre comme ça justement... Là, je lisais récemment Serge Pey qui disait comme ça, ce qui est important, c'est pas tellement la rime, c'est le rythme. Après ça, le rythme, on fait comme on a envie, il faut trouver le sien, propre. Donc la rime, ce qui est déjà tout fort établi à l'avance, ça me paraît pas forcément la bonne chose, mais bon, je laisse maintenant carte blanche.
Là-dessus. Alors, carte blanche à Alain pour le prochain choix musical sur Radion à bord de Wagon Livre, donc ce soir, émission... spécial donc avec Alain Quévès et Jacques Morin à l'occasion de la semaine du printemps des poètes. Alain, que nous réserves-tu?
Eh bien, nous parlions tout à l'heure de passeurs de poèmes. L'un des vecteurs de la poésie, disais-je, c'était la voix. Et je vais vous proposer une chanson qui est chantée par Jean-Luc de Batisse. Jean-Luc de Batisse est un poète, chanteur, un comédien. Et qui a une voix extraordinaire. Là, on va l'entendre dans un poète du Chat Noir. Le Chat Noir, vous savez, c'est le cabaret des années du début du XXe siècle, où se produisait tout un tas de joyeuderies parfois un peu noires. Donc,
à l'époque, d'où
le noir.
Décadent.
Voilà, un peu décadent, un petit peu drôlatique aussi. Donc on y rencontrait Mac Nab, Alphonse Allais, on y rencontrait Aristide Bruand, Charles Cros et bien d'autres, et Eric Satie et Verlaine aussi. Donc qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter Aristide Bruand, par exemple, avec « Allez salaud ».
Ils sont des teints, ils sont des tas, des fils de race et de rasta qui descendent des vieux tableaux. Ah, les salauds! Ils sont presque tous décorés, ils ont des bonnes balles de curé. On leur y voit plus les calots, ah les salauds. Ils sont presque tous mal bâtis, ils ont les abattis trop petits. Et des bidons comme des ballots, ah les salauds. Rapport que tous c'est dégoûtant. Ils passent leur vie, ils passent leur temps à s'empiffrer des bons boulots. Allez, salauds. Le soir, ils vont dans des salons pour souffler dans leurs pantalons. Où ce qu'ils envoient des trémolos. Allez, salauds. Après, ils s'en vont vadrouiller, piqueter, pinter, boustifailler, et pomper à tous les goulots. Allez, salauds. Ensuite, ils vont dans des endroits, ce qui va l'éduquer les rois. Là, qui a que les volets de clos. Les salauds. Quand on les rapporte le matin, ils sentent la vinasse et le crottin. Qu'ils ont bu dans le caboulot. Allez, salauds. Allez, salauds. Allez, salauds. Allez, salauds. Eh ben, c'est tous ces cochons-là qui font des magnets du fla-fla. Et c'est nous qu'ils appellent sous l'eau. Allez, salauds. Ils sont déteints, ils sont d'état, des fils de race et de rasta, qui descendent des vieux tableaux. Allez, salauds, allez, salauds, allez, salauds, allez, salauds, salauds.
Radion à Appoigny, 95.
Émission qui s'inscrit dans le programme du Printemps des Poètes avec deux invités ce soir devant le micro de Wagon Livre, Jacques Morin, Jacques Mau, directeur de publication de la revue de poésie Décharges, et Alain Quévez. Concernant le prochain numéro de Décharges,
qui
Jacques...
sort pratiquement là actuellement, début mars, donc il y aura au sommaire, il y aura un dossier consacré à Gilles Pageot qui est mort il y a 20 ans, donc c'est un dossier hommage, en quelque sorte, avec des inédits assez nombreux. Et entre autres, il y a aussi un poète d'Auxerre, donc c'est bien de le nommer et de le noter, c'est donc Hervé Merlot, qui est un poète qui est assez connu dans le milieu, et un poète beat, etc. Et je voulais donc lire, c'est pas extrait de la revue d'ailleurs, mais d'un recueil qu'il vient de publier lui-même, donc deux, trois textes de lui pour donner un peu le ton qu'il emploie. Bonhomme, quand tu balances entre ceci et cela, le jour et la rivière, la brune et la bruine, le rasoir et la rose, la taupe chemine aveuglément et mange à sa faim.
Alors un autre texte.
Ça ne rate jamais. À chaque fois le cardiologue m'informe que j'ai l'axe droit. Je ne dis rien, je sais que mon cœur penche sous le poids de mes amours charnels et de mes filles désincarnées. L'axe de la terre non plus n'est pas droit. Notre amour y est-il pour quelque chose ? Un dernier. À 15h, je décide d'arrêter l'écriture, de laisser aux pierres le temps de s'assécher, au corbeau celui de fourbir son noir, à moi-même celui de croire que je tire les ficelles.
Merci Jacques.
Hervé Merlot. Hein.
Hervé Merlot. Je vais te laisser encore la parole parce que tu es le président du comité directeur du prix Marie-Noël de la Bourgogne auxerroise. Alors ce prix va être décerné dans un peu plus de 15 jours, le samedi 24 mars prochain, au domicile de la poétesse auxerroise Marie-Noël. Parle-nous de ce prix, Jacques, s'il te plaît.
Donc c'est un prix qui était tombé un petit peu en déshérence depuis quelques temps, et on nous a contactés, enfin Alain d'abord, qui m'a aiguillé en quelque sorte, et moi ensuite, pour s'occuper de ce prix, qui est quand même... Le nom, enfin Marie-Noël, c'est quand même le poète d'Auxerre, hein, indéniablement, historiquement, universellement connu.
Et j'ajouterais qu'Auxerre est universellement connu en tant que ville poétique. Quel est le personnage culturel le plus célèbre d'Auxerre ? Une poète. Une poète contemporaine.
C'est bien, nous notons. Bon, voilà.
Et donc, alors ce prix, on a essayé... Bon, autant que faire se peut de le relancer, puisqu'il était quand même un petit peu oublié et perdu. Et donc voilà, on a, avec un comité pour voter qui est assez important, donc avec, on peut citer Christelle Claude, Colette Nismazur, qui est une poète belge, donc des gens qui sont évidemment très impliqués par rapport à Marie-Noël en tant que poète, donc de relancer un petit peu ce prix qui va donc être décerné. Donc voilà, Donc c'était, je pense, pas inutile d'essayer de s'y mettre un petit peu pour revivifier un peu ce prix.
Alors qu'offre-t-on au lauréat du prix ?
Alors on offre, bah, ça c'est un petit peu la tradition qui le veut, ça va être un magnum de Chablis.
Le Château Grenouille.
Le Château Grenouille, donc le meilleur coup qui soit, hein, nous a-t-on dit. Et voilà, c'est un peu, bon, enfin, c'est évidemment un petit peu local également. Le Chablis, hein, c'est aussi ce qui fait connaître.
Mais je crois que c'est à l'image de la poésie, elle est à la fois universelle et toujours ancrée dans le local. Et Marie-Noël, qui est mondialement connue, est également localement adoptée par la population, même si on ne la connaît plus beaucoup, ça reste la vieille dame d'Auxerre. Et elle est vraiment à cette intersection du familier et de la célébrité. Et donc le Chablis, le Château Grenouille, est un petit peu dans ce cas-là. Je veux dire, c'est un vin universellement célébré et néanmoins très ancré dans un terroir. C'est pour ça qu'on a voulu aussi que la récompense du prix soit prestigieuse et ancrée dans un terroir, puisque c'est le prix de la Marie-Noël de la Bourgogne auxerroise.
Alors on va parler de la poésie aux éditions Rhubarbe cette fois-ci. Donc je rappelle à nos auditrices et auditeurs que la maison d'édition Rhubarbe a été créée par notre invité, Alain Quévez, créé en décembre 2004. Tu publies, Alain, à peu près une dizaine de titres par année ?
Oui, à peu près.
Et à l'heure actuelle, le catalogue des éditions Rhubarbe, on peut compter combien de titres actuellement ?
Une soixantaine, c'est un petit peu variable parce qu'il y a des titres qui s'épuisent, d'autres qui renaissent, d'autres qui meurent définitivement, mais une soixantaine.
Alain, puis-je te demander alors de nous présenter les poètes publiés aux éditions Rhubarbe.
Alors, déjà, ils sont très divers. Ils sont divers par leur ton, par leur style, par leur parcours, par leur âge. J'ai publié un poète qui a aujourd'hui 94 ans et j'ai également publié des auteurs dont c'est le tout premier ouvrage. Je dois dire que, en fait, ça n'est pas un critère, c'est-à-dire que, pas plus que l'origine géographique, je publie des manuscrits, pas des noms. J'ai publié... La poésie a été le premier livre des éditions Rhubarbe, c'était le poème d'Hiroshima, de Michel Ost. Ça a été le tout premier livre des éditions Rhubarbe.
Alors Michel Ost, c'est pas n'importe qui. Prix Goncourt, 86.
Oui, pour Valet de Nuit.
Et tu as publié donc le poème d'Hiroshima, qui est un des premiers textes sortis des tiroirs, voilà, par Michel Ost, qui réside de temps en temps à Pimel, dans le Tonnerrois.
Voilà, c'est, me dit-il, et je le crois volontiers, son tout premier texte écrit, et jamais encore publié. C'est donc un inédit. Il l'a écrit à 20 ans, en prenant brutalement conscience de ce qu'avait été... la tragédie d'Hiroshima. Et puis ensuite, il a fait sa carrière de romancier, de nouvelliste. Et ce poème-là, qui est un seul poème, un oratorio, hein, ce n'est pas un recueil de poésie, ce poème-là est toujours resté dans son tiroir, proche. Hein, c'est un poème, c'est un livre de chevet, proche, mais non publié. Et donc, je suis évidemment extrêmement fier de l'avoir publié. Et je pense que c'est aussi... parce que je l'ai publié, que l'aventure a continué. Sinon, elle aurait pu doucement s'éteindre.
Alors, je pense aussi au niveau poète, à Ghislain Ripaud, qui est quand même un grand nom.
Oui, c'est un très grand nom.
Je ne dis pas que les autres sont des petits noms, mais...
Oui, alors c'est un grand nom, mais est-il poète ? C'est la difficulté avec Ghislain Ripaud, qui, à mon sens, est de tout mon catalogue l'écriture la plus inclassable, la plus innommable... Voilà, je fais des livres innommables de Ghislain Ripaud. Il est certainement poète, oui, mais il est également romancier. Ce sont des livres qui échappent à toute norme. Donc, les éditions Rhubarbe, ayant pour ambition de publier des textes qui échappent aux normes, les deux ouvrages de Ghislain Ripaud que j'ai publiés et le troisième qui va paraître avant l'été, qui s'appelle Dis-lui, sont effectivement des ouvrages hors normes. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de vouloir se faire une idée de la poésie contemporaine en commençant par Ghislain Ripaud. En lisant Ghislain Ripaud, on se fait une idée de Ghislain Ripaud et c'est très bien.
Jacques, tu interviens à tout moment,
bien hein, sûr,
si tu le souhaites.
Bien sûr, oui, Ghislain Ripaud, c'est quelqu'un de très important. En poésie, il a commencé par les Inhibitions barbares. Et il était vers Fort-Calquier il y a fort longtemps, donc il a continué à écrire. C'est vrai que c'est une écriture, on ne peut pas dire une poésie, une écriture extrêmement volubile, extrêmement bouillonnante. Bon, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors c'est vrai que quelquefois on est un peu perdu, mais bon, c'est un peu aussi le plaisir qu'on a de le lire.
Alors j'ai publié également un poète chilien, Louis Smithson, qui est lui aussi un poète très important, qui a publié chez Actes Sud, qui a publié chez mes confrères d'Obsidian à Sens.
Texte bilingue, édition bilingue.
Alors c'est là les poèmes. Donc c'est une réédition de trois recueils qui étaient introuvables, devenus épuisés. Et évidemment, quand on réédite des recueils épuisés, on en profite pour les réviser. Là, ils sont en bilingue, c'est-à-dire que l'auteur, Louis, quand il était arrivé en France, maîtrisait trop mal la langue française pour mettre son grain de sel dans la traduction. Là, oui, il est parfaitement bilingue, donc il a révisé la traduction et un petit peu aussi le texte espagnol.
On marque une petite pause musicale, Alain. Qu'est-ce qu'on peut écouter pour se faire plaisir en votre compagnie ce soir? Je rappelle donc qu'Alain Quévès et Jacques Morin, des passeurs de littérature devant nos micros à l'occasion du Printemps des Poètes qui a retenu cette année donc le thème de l'enfance.
Eh bien, on va rester dans les poètes du Chat Noir avec un poème d'Alphonse Allais qui s'appelle « L'enfant caméléon ».
Cet enfant est maigre et né pour la peine. Son père, ouvrier lâche et violent, le bat constamment, le nourrit à peine. Le petit Gustave est pâle, tout blanc. Le petit garçon, toujours assez sage, vient de renverser par mégarde un seau. Son père lui fait un mauvais visage. Le petit Gustave et rouge ponceau. Ce père cruel, d'une main trop sûre, se fait de le battre un barbare jeu. Le corps de l'enfant n'est que meurtrissure. Le petit Gustave est devenu bleu. Pauvre créature. Enfin, elle est morte. Ainsi qu'une fleur au souffle de l'air, dans la tombe froide, un jour on l'emporte. Le petit Gustave est devenu vert.
L'enfant caméléon, à l'instant, un poème d'Alphonse Allais, un choix de nos deux invités, Jacques Morin et Alain Quévès. Je rappelle d'ailleurs que mercredi prochain, 14 mars, devant ce micro, je serai avec Serge Moreau, qui lui a fait paraître aux éditions de l'Armançon un petit dictionnaire atypique des poètes de langue française. Serge Moreau, que l'on connaît bien dans Lyon et qui est surtout un spécialiste de la butte Montmartre, puisqu'il y a vécu si longtemps. Il a été très proche de Bernard Dimet, il a côtoyé beaucoup de chansonniers de Montmartre. Serge Moreau sera donc avec nous la semaine prochaine. Mais ce soir, nous sommes avec un éditeur et un directeur de publication de revues de poésie et on est bien content de pouvoir offrir un petit peu d'espace à la poésie et notamment donc aux recueils de poèmes qui ont vu le jour grâce aux choix éditoriaux d'Alain Quévès aux éditions Rhubarbe.
Oui.
Maison d'édition installée à Auxerre. Hein.
À Auxerre. On a parlé de Michel Ost, de Louis Smithson. On change de pays, on passe en Belgique avec Werner Lambercy, dont j'ai publié trois ouvrages, et qui est un petit peu à l'image de la poésie que je défends, que j'aime, à la fois intimiste, familière, drôle, souvent drôle, pas hilarante, mais un sourire, un sourire philosophe, et qui ouvre des portes, qui ouvre des fenêtres, qui... Voilà. Je peux éventuellement en lire. La torréfaction des grains de café du discours amoureux est un art délicat, entre l'arôme de l'âme et l'amertume légère qui s'en dégage. Saveurs en jupe où le parfum fait passer des images. Déjà dans le corps, c'est le frisson qui parle, comme ces raffiaux dont les tôles au-dessus de la chambre des machines tremblent en attaquant chaque vague. Un coup de vin comme une couche de minium. Et c'est parti pour l'aventure d'un passage de la mer Rouge. J'ai publié un premier recueil de Werner Lambersi qui s'appelait Aquila Island Notebook, qui malgré son titre est tout à fait en français, et qui est en fait un journal de voyage dans les îles Aquila Island, en Irlande, et qui portait un regard à la fois ironique, amusé et profond sur l'Irlande, mélange de modernité, de tradition, mélange de superficialité, parce que, en tout cas à l'époque, je pense que ça n'a pas trop changé depuis, le sublime y côtoyait le trivial, notamment en termes de publicité, de voilà. Et Werner Lambersi avait vraiment bien senti cela. Un deuxième recueil de Werner que j'ai publié qui s'appelle Érosion du silence, et ce sont des poèmes sur les pierres. Les pierres n'inspirent aucune émotion, les pierres n'ont pas d'âme, les pierres on ne les aime pas. Eh bien si, on peut les aimer. Et les pierres sont un peu comme des poèmes. Et c'est ce qu'il a voulu faire dans ce recueil. Le poème aimerait mieux ne pas tout dire des débuts. La pierre aimerait mieux ne pas tout dire de la fin. Le poème n'a d'autre nudité que son absence. La pierre n'a d'autre évidence que sa nudité. Le poème, c'est changer un rapport de force en rapport d'amour. La pierre, c'est changer un rapport à l'obstacle en rapport au détour. Donc de Werner Lambersi.
Alors un petit mot de René Daudan. Je pense à ce recueil que tu as fait paraître et qui a pour titre « Pour l'odeur immédiate du foin ». Alors c'est un peu le local de l'étape, René Daudan. Puis tu aimes bien cette poésie terrienne, justement, qui revient un peu comme Jacques. Vous avez ça en commun, cette poésie qui est proche du quotidien des gens, qui n'est pas une poésie malarméenne, hermétique, une poésie qui parle à tout le monde.
Absolument, je pense que la poésie parle ou doit se taire. Et si elle parle, elle parle à tout le monde. Alors René Daudan avait une production de chansons et de poèmes bien avant moi. C'est pas moi qui l'ai découvert, je lui ai simplement... Nous avons fait un petit bout de chemin ensemble. Il a publié donc « Pour l'odeur immédiate du foin » qu'il chante par ailleurs, ou dont il chante une partie des textes par ailleurs. Et oui, je suis très content. C'est mon régional, il y en a quelques autres. Mais comme je disais, je reçois les manuscrits, je les lis tous, d'où qu'ils viennent. Voilà.
Alors, on va donner la parole à Jacques Mau pour présenter alors un autre recueil de poèmes aux éditions Rhubarbe.
Toujours aux éditions Rhubarbe, donc d'Emmanuel Lecam, qui s'appelle « Les nus ». Parce que Emmanuel Le, hein, c'est une femme, parce qu'on a peu parlé de femmes, on va passer pour misogyne ensuite.
Donc, on a parlé un petit peu de Marie Noël.
C'est vrai, bon, ça nous sauve. Alors voilà, donc, en particulier ce recueil-là, puisque j'en ai fait la préface. Et donc Emmanuel Lecam est une auteure tout à fait contemporaine, qui bretonne, et qui a donc publié ce recueil, qui me semble un recueil comme ça, où, avec beaucoup finalement de, on va dire, d'opposition entre une certaine douceur et une certaine violence. Il y a beaucoup de choses un petit peu curieuses dans cette poésie qui est assez forte, à mon sens.
Oui, c'est un poète que je connaissais, que j'avais lu notamment dans la Revue des Charges. Et un jour, j'ai eu la surprise et le plaisir de recevoir un manuscrit par la poste. Alors, je vous en lis un. Donc, c'est l'avant-dernier ouvrage paru aux éditions Rhubarbe. Il est paru en décembre. En décembre, voilà.
Donc un poème d'Emmanuel, hein, c'est une voilà. Dame, Emmanuel Le Cam. Oui.
Vous tutoyez mon regard, je vous fais asseoir dans le meilleur fauteuil. Vous offre à boire, je bascule un peu sur mes rotules, je ne suis pas très sûr de moi. Il faut verrouiller les pensées amères, elles font périr les fleurs. Délier ses articulations est difficile, marcher un calvaire. Et pourtant, vivant, de la broussaille s'élève un étourneau. On est parfois assez proche, non pas de la forme, mais de l'esprit du haïku. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une ambiance qui peut être climatique, qui peut être un paysage, et qui tout à coup, dans une espèce de chute, se révèle révélatrice d'un état d'âme. Voilà. On est dans un paysage et tout à coup ce paysage devient, nous exprime, nous dit.
Le catalogue des éditions Rhubarbe est consultable sur le site internet donc de la maison d'édition Rhubarbe.
Hein. Il est à jour.
Il en va de même pour la revue des charges qui, depuis 2006, a son site internet deschargeslarevue.com. Donc, j'espère que notre émission aura donné l'envie aux auditrices et auditeurs de s'abonner à la revue des charges. Donc, le numéro 153 est disponible dès à présent. Auprès donc de Jacques à Aiglonie, ou alors on passe bien évidemment par le site internet de décharge.
Que sur le site, il y a des choses qui sont tout à fait en dehors de ce qu'il y a dans la revue papier, donc c'est uniquement sur le site qu'on trouvera. Et entre autres, je m'occupe de ce qu'on appelle la revue du mois, c'est-à-dire que bon, je parle d'une revue par mois, de VRAC également, qui a un onglet où je parle des revues de nouveau, mais en particulier sur des petits points. Et donc là, il y a une nouvelle chronique qui est partie, qui s'appelle Circonstancielle, avec des textes, des poèmes, un petit peu consacrés un peu à ce qui se passe au jour le jour.
Et bien sûr, notre ami Jacques Mau, qu'on a entendu ce soir, eh bien, on peut aller voir de quelle manière il considère la poésie, lui qui est poète et qui dirige donc la revue des charges depuis plus de 30 ans. C'est La poésie de A à Z selon Jacques Mau, donc c'est signé Jacques Morin, et c'est aux éditions Rhubarbe. Et puis je mentionne également une revue intéressante, c'est la revue Carré, qui est soutenu et publié par les éditions Rhubarbe. C'est une expérience éditoriale assez récente. Hein. Elle est sortie au mois de décembre, janvier.
Voilà, elle est récente pour le public. Elle est ancienne déjà pour les concepteurs, puisque c'est une revue que le comité de rédaction porte depuis fort longtemps, qui a eu une naissance bien arrosée et difficile. Le deuxième numéro paraîtra, en revanche, tout à fait dans les délais, avant l'été.
Voilà, la revue Carré qui a été inaugurée au restaurant Le Cercle à Auxerre au mois de... c'était janvier ou février dernier. Voilà. Merci Jacques Mau, merci Alain d'avoir été ce soir devant le micro de l'émission littéraire de Radion pour marquer à notre manière le printemps des poètes. Bonsoir à vous, merci
Bonsoir.
Beaucoup.
Bonsoir Yannick.
Avant de nous séparer, quelques rendez-vous culturels à ne pas manquer et à noter dans vos agendas dans les semaines à venir, dans Lyon mais aussi en Bourgogne. Bien sûr, actuellement c'est le printemps des poètes avec le thème de l'enfance cette année. Manifestations diverses et organisées jusqu'au 18 mars prochain. Alors si vous souhaitez effectivement en savoir un peu plus, vous vous rendez tout simplement par internet sur le site officiel du Printemps des Poètes, hein, printempsdespoètes.com. Mais vous pouvez aussi, pour affiner vos recherches sur un plan plus local, et je vous le recommande vivement, vous rendre sur le site internet du Centre Régional du Livre de Bourgogne. Autre information, cela se passe à la librairie Oblique, demain soir à partir de 19h30. Grégoire Courtois recevra Thibaut Elirof, directeur de la collection Nouveau Millénaire, c'est la collection de science-fiction chez J'ai lu, et Thibaut Elirof viendra présenter les derniers titres de cette collection, et notamment la réédition, retraduction de l'œuvre de Philippe K. Dick, car effectivement il s'agit d'une soirée pour marquer le 30e anniversaire de la disparition de l'auteur de science-fiction Philippe K. Dick. Et Grégoire Courtois a également invité Sébastien Guillot, qui travaille à la nouvelle traduction de Blade Runner. C'est donc un rendez-vous proposé par la librairie Oblique demain soir, jeudi 8 mars à 19h30. Vendredi 9 mars à 18h30, alors, présentation du livre Saint-Étienne d'Auxerre, la seconde vie d'une cathédrale, par Christian Sapin, qui est directeur du Centre d'études médiévales Saint-Germain. C'est à l'auditorium de la bibliothèque d'Auxerre à 18h30, vendredi 9 mars. Coup de chapeau et salutations à Alain Deneau, créateur et organisateur du Salon du Livre de la Chapelle Saint-André. La Chapelle Saint-André est un village de la Nièvre, à mi-chemin entre Auxerre et Nevers, à 15 km de Clamecy, et va se tenir le vendredi 16 mars la troisième édition du Salon du Livre de la Chapelle Saint-André. Alors vendredi 16 mars à 20h, l'historien Gilles Plattret donnera une conférence sur l'histoire des loups en Bourgogne, c'est à la salle des fêtes de la Chapelle Saint-André, et les samedis 17 mars et dimanche 18 mars se tiendra le Salon du Livre, toujours dans la même salle des fêtes. C'est Evelyne Dress qui est l'invitée d'honneur de cette troisième édition du Festival du Livre de la Chapelle Saint-André. Mais on pourra également rencontrer Barbara Moreau, Carole Borda, Céline Guillaume, Amélie Louis, Sophie et Christian Rabussier, Richard Adam qui est auteur et également le créateur des éditions du Panier d'Ortie, J.P. Virenne, Michel Benoît, Antoine Gavory, Philippe Depal qui est écrivain et journaliste au Journal du Centre, et Jean-Pierre Midaven et Gérald Leroy qui propose, lui, alors ça me semble important, il propose une nouvelle façon d'apprendre l'anglais. Voilà, c'est samedi 17 et dimanche 18 mars prochain dans la Nièvre à la Chapelle Saint-André. Des animations sont également prévues, animation de démonstration de calligraphie par Patricia Muller, et puis Michel Clément de son côté proposera des démonstrations de restauration de livres. On signera également la participation de Crystallium Art avec ses créations exceptionnelles. Christian Banda, le mari de Carole, et nous les saluons. Autre événement, cela se passe du côté de Sens, à l'espace culturel Leclerc. Le célèbre animateur de Questions pour un champion viendra dédicacer son livre paru aux éditions Michel Lafon. Julien Lepers, effectivement, dédicacera Les fautes de français plus jamais. C'est le samedi 17 mars prochain à partir de 17h30 à l'espace culturel Leclerc Saint-Clément. Et puis, vous le savez sûrement, samedi 16 mars à 10h va s'ouvrir le 32e Salon du Livre de Paris. C'est la littérature japonaise cette année qui est à l'honneur. Moscou est la ville invitée. Et puis il y aura, vous savez, toujours des thèmes dominant la réflexion, notamment une réflexion sur la place du livre dans la cité. Et une place importante cette année est accordée au manga. Voilà, la 32e édition du Salon du Livre de Paris. Du 16 mars jusqu'au 19 mars prochain, porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Pour ma part, je vous retrouve sur les ondes de Radio mercredi prochain, 14 mars, à partir de 21h, pour un nouveau rendez-vous de votre magazine littéraire. Nous serons en compagnie de Serge Moreau, toujours dans le cadre des commémorations du printemps des poètes. Serge Moreau viendra nous présenter quelques poètes bourguignons dont il a longuement parlé dans son passionnant petit dictionnaire atypique des poètes de langue française paru aux éditions de l'Armançon. C'est donc mercredi prochain, 14 mars à 21h sur Radion. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée en musique. À très bientôt. Au revoir à tous.